Bonjour, autre radio, autre culture, également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons François Stamman. Bonjour François.
Bonjour Marion.
J'aurais aimé que vous me précisiez quelle est votre position professionnelle.
Alors actuellement, je suis en retraite partielle et professionnellement, donc j'étais ingénieur électronicien, plus particulièrement dans les domaines de l'analogique.
Alors vous êtes un enfant de la guerre.
Oui, je suis né en 43.
En 43, donc tout à fait tout petit pour avoir quelques souvenirs.
Aucun souvenir de la guerre.
Aucun souvenir. Et vous vous êtes intéressé au son à partir des années 50 avec l'arrivée d'un poste radio.
Avec l'arrivée d'un poste de radio chez un voisin qui était un très lointain cousin par alliance, qui travaillait, qui devait avoir, entre 20 et 25 ans, et qui s'est payé un énorme poste de radio, parce que c'était d'énormes meubles à l'époque, avec un changeur de 45 tours en prime. C'était un pâté Marconi, et la grosse découverte, c'est qu'il avait la modulation de fréquence. Et ça a été pour moi une révolution complète par rapport à tout ce que je pouvais entendre à la radio chez mes parents sur le Ducretet qui datait de la guerre et qui, lui, n'avait que la modulation d'amplitude avec essentiellement des émissions en grandes ondes qu'on suivait tous les jours à midi. C'était Vas-y Zappi sur Radio Luxembourg. Et puis le soir, c'était Signé Furax sur Europe 1, qui est une toute nouvelle station. Et Signé Furax était la suite de Malheur au barbu, qui avait commencé sa vie sur l'ancêtre de France Inter. Mais c'était la même équipe avec Pierre Dac et Francis Blanche.
Donc période exceptionnelle à ce niveau-là.
Oui, ça m'a beaucoup marqué au point de vue état d'esprit, je dirais.
Alors comme beaucoup de petits garçons, ou de jeunes garçons, vous avez une prépondérance chez le sexe masculin à tout démonter.
C'est le moins qu'on puisse dire, parce que comme j'étais jaloux du poste de mon voisin, j'ai fait des pieds et des poings pour obliger mes parents à changer leur poste. Et finalement, donc, je devais avoir, 10-11 ans, quand mes parents ont enfin acheté un Philips ou un Radiola avec la modulation de fréquence. Très rapidement, j'ai voulu savoir ce qu'il avait dans le ventre. Donc j'ai fait comme Boris Vian avec sa télé, je l'ai retourné. Le son était plus beau. Puis j'ai retiré le panneau arrière. Là, c'était une plaque 10 oreilles avec plein de trous. Puis bien sûr, c'était des postes à lampe. Oui. Donc ça sentait bon et c'était bien chaud.
Et vous l'aviez démonté ?
Je l'ai démonté. J'ai essayé de le remonter complètement, mais ça n'a pas marché. Je ne peux pas prétendre que mon arrière-train en porte encore les traces, mais il y a eu une correction paternelle.
Oui, mais j'imagine, parce qu'un poste de radio à cette époque-là coûte quand même...
Ça coûtait une fortune.
Ça coûtait une fortune.
Absolument.
Donc, quand on voit un bonhomme haut comme trois pommes qui commence à démonter un tel matériel, c'est...
Voilà.
Effectivement, ça...
Enfin, j'ai réussi à le remonter quand même et à le faire fonctionner, mais ça m'a bien pris un an et demi ou deux ans. Et puis après, j'ai surtout voulu l'améliorer.
Dans quel sens alors ?
Je voulais que le son soit plus beau, qu'il soit plus puissant. Et puis, entre-temps, il s'était passé plein de choses. À partir, je ne me souviens plus de quelle année, c'était la gare d'Orsay encore à l'époque, il y avait le palais d'Orsay. Et chaque année, je ne me souviens plus si c'était au printemps, il y avait un salon du son et de la haute fidélité. Et depuis l'âge de 10 ans, j'y allais régulièrement, chaque année. Et puis, c'était des merveilles absolument inabordables à l'époque. C'était pratiquement une année de salaire pour un grand avocat, les matériels qui étaient exposés là-bas. Mais en 1957, il y a réellement eu une révolution, ça a été l'apparition de la stéréophonie. Parce qu'avant, il y avait eu les 78 tours, ensuite il y avait eu les micro-sillons, en 33 tours, il y avait le 45 tours pour la variété, ça commençait. Mais là, d'un seul coup, il y a eu la stéréophonie, c'était surtout chez Decca. Et là, j'ai été emballé par les premières démonstrations en stéréophonie au Palais d'Orsay. Et je me suis dit, pourquoi je n'essayerais pas d'avoir la stéréophonie à la maison ? Ça n'a pas été évident.
La stéréophonie, à ce moment-là, on l'a retrouvée uniquement dans la radio ou on l'a retrouvée sur d'autres types d'appareils ?
Il n'y avait pas de stéréo à la radio à l'époque
non,
encore.
D'accord.
Ça commençait aux États-Unis, mais
oui.
en, En Allemagne peut-être, en Angleterre peut-être, mais en France pas du tout. Ou alors ils commençaient tout juste à étudier les possibilités. La stéréo en modulation de fréquence a dû arriver au moins 3 ans après, au tout début de la maison de la radio, au début des années 60.
Alors justement, on arrive aux années 60, ces fameuses années 60. On en parlait tout à l'heure, je suis très étonnée d'entendre les garçons et filles qui sont âgés entre 27 et 33 ans décrire des années 60 comme si c'était quelque chose de complètement préhistorique et qu'ils ne connaissaient rien à la technologie, technologie informatique ou technologie du son. Et je ne sais pas, ils s'imaginent peut-être qu'on devait correspondre par tam-tam les nouvelles, mais ils ne se rendent pas compte de l'évolution qu'il y a eu dans ces années-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Au début des années 60, moi j'ai fini mes études, j'ai un BTS de radio-électricité, comme ça s'appelait à l'époque, que je compléterai plus tard par des cours aux arts et métiers pour devenir ingénieur. Au début des années 60, en 62, je suis rentré dans une société qui s'appelait Elie Hebelin, qui était à Rueil. Et Elie Hebelin était un des fournisseurs de la toute nouvelle maison de la radio qui venait de finir d'être inaugurée. Et donc, toute l'industrie de l'électroacoustique française était présente pour les équipements des différents studios, des consoles de prise de son, des studios d'enregistrement et tout. Et il ne faut pas croire du tout qu'on en était resté à la galette de cire et au gramophone d'Edison ou de Charles Cros. Hein. On avait déjà de très 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 belles machines. C'était les débuts, c'était la fin de la RTF, les tout débuts de l'ORTF qui est arrivé après. Et on avait de très très belles consoles d'enregistrement. Beaucoup étaient encore à lampe, mais on commençait déjà à trouver des consoles d'enregistrement à transistor. On avait des microphones fabuleux qui, eux, étaient pratiquement tous d'origine allemande et qui avaient déjà une moyenne d'âge de 15 ou 20 ans, mais dont la qualité reste exceptionnelle même aujourd'hui, au XXIe siècle. Et on avait des magnétophones superbes en France, on a peut-être oublié, on pense que les magnétophones c'était surtout des choses allemandes, japonaises ou suisses, mais il y a eu pendant une bonne quinzaine d'années une industrie française du magnétophone professionnel de studio qui s'est réduite comme peau de chagrin, qui n'existe plus maintenant, mais il y avait des marques très célèbres. Il y avait Elie Hebelin, qui est devenu Schlumberger et ensuite Enertech. Il y avait la Société Alsacienne de Construction Mécanique. Il y avait Tolana, il y avait Bourdereau. Au niveau des régies d'enregistrement, il y avait Girardin. Il y avait aussi Elie Hebelin, qui faisait des régies, des grandes consoles. Au niveau des enceintes, on avait Ellipson, entre autres, qui restait une référence pendant des dizaines d'années, et dont on recherche maintenant les produits de l'époque. Donc, il n'y avait pas que les Anglais, les Allemands, ou les Suisses, ou les Américains, pour faire du matériel audio professionnel de la plus haute qualité, et qui reste encore d'actualité aujourd'hui. Il y a des machines qui tournent encore. Il y a des machines qui servent, par exemple, en finale, dans certains studios, à faire du mastering. Tout l'enregistrement aura été traité en numérique, sur des enregistreurs numériques et tout, mais on va rechercher un certain grain, un certain timbre, et pour obtenir ce grain ou ce timbre, ben on repasse encore par un magnétophone à bande quart de pouce ou à bande demi-pouce.
Est-ce qu'il y avait des échanges technologiques entre, par exemple, les États-Unis, la France avec les restes des pays d'Europe ?
Dans le domaine de l'audio, les échanges de technologies étaient assez difficiles. L'oreille française était considérée à l'époque dans le monde entier comme étant très particulière, tellement particulière que l'ORTF et même la RTF avant avaient réussi à faire fabriquer par des marques aussi prestigieuses que Neumann, AKG ou Shops des microphones qui suivaient des demandes spécifiques de l'ORTF. Par exemple, le couple stéréo ORTF-Shops, c'est effectivement, comme son nom l'indique, une demande de l'ORTF. Toutes les séries de microphones Neumann qui commencent par les 200 ou les 300, je crois même des 400, sont des demandes spécifiques de l'ORTF, qui sont donc des versions particulières par rapport à ce qu'utilisaient les radios allemandes de l'époque. D'autre part, la langue française, au niveau des phonèmes, de l'articulation, des timbres, est radicalement différente de la langue allemande, elle est radicalement différente de la langue américaine. Les nasales et les gutturales sont complètement différentes aussi, ce qui fait que des matériels qui étaient particulièrement bien adaptés aux programmes de radio ou de télévision américains de l'époque et même de maintenant, ne passaient absolument pas en France parce qu'on n'arrivait pas à retranscrire, à retransmettre toutes les émotions contenues dans la voix d'un Français.
Alors c'est pour ça qu'on parle d'un son particulièrement français dans les années 60,
il y a
qu'on
un son
retrouve
français,
dans la musique et qu'on retrouve
il
partout.
y a un son français, de la même façon qu'on va parler ensuite des enceintes acoustiques anglaises, des enceintes Kev, des enceintes Rogers, des enceintes Bower et Wilkins, etc., etc., ou du quad. Il y a un son anglais, il y a un son allemand, il y a un son français. Les Américains n'utilisent pratiquement plus jamais de microphones, de certains types de microphones dont les Français raffolent. On trouvera très très rarement des Beyer M130 et des Beyer M160 utilisés aux États-Unis. Ils ont leur propre micro à ruban qui sont les RCA, qui ont leur qualité, qui sont pas du tout adaptés à une voix française, encore une fois. Là, je viens de voir, il y a très peu de temps, un superbe R20 restauré par Philippe Labrou. Quand on l'écoute, on ne reconnaît pas sa voix. On a une voix typée américaine, typée publicité de marque de chewing-gum ou de lessive ou de tout ce que vous voulez, mais on n'a pas une voix de français quand on s'entend par l'intermédiaire de ce microphone.
Alors comment vous expliquez, par exemple, puisqu'on a une spécificité de voix française, de sonorité française, comment vous expliquez cette rage de chercher des U47, par exemple, ce micro mythique utilisé aussi bien dans les studios allemands que dans les studios américains?
Bon, c'est toute cette série U47, U50, qui sont les micros mythiques des années 40 et 50 de chez Neumann, demeurent encore tout à fait d'actualité parce qu'ils possèdent une certaine. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des micros à lampe, mais le timbre, il possède une certaine chaleur, en particulier sur la voix humaine, et une définition. Quand on les utilise en musique classique, en particulier sur des cordes, qu'on retrouve difficilement avec d'autres micros, des mêmes fabricants pourtant, mais qui leur ont succédé. La plus belle démonstration, c'est qu'une maison comme Neumann continue à fabriquer au XXIe siècle des microphones avec bien entendu des électroniques qui n'ont plus rien à voir avec l'électronique à tube de cette époque-là, quoique, mais qui utilisent toujours des capsules. C'est-à-dire le capteur, finalement, qui sont pratiquement des clones de ce qui se faisait il y a un demi-siècle.
On arrive à avoir le même son finalement.
On s'en approche. Certains s'en approchent. On a eu, il y a, je crois qu'il n'y a pas loin d'un an maintenant, Christophe qui est venu nous montrer des micros, des copies justement d'anciens micros à lampe AKG, je crois que c'était des copies de C12. Il y avait des copies, donc ça c'était un matériel tchèque, je crois qu'il y avait aussi des copies de Neumann, et je dois admettre que c'était assez ressemblant, bien que la mémoire auditive un demi-siècle après peut présenter certaines lacunes.
Est-ce qu'à votre avis, un micro se bonifie en vieillissant?
Alors on pourrait tourner la question autrement, est-ce qu'un micro a besoin d'une période de rodage?
Voilà, oui, par
Alors
exemple.
pour les enceintes, bien que certains prétendent que non, pour les enceintes acoustiques, il est certain que les haut-parleurs, en particulier ceux de basse et de médium, ont besoin d'une période de rodage pour, disons, délivrer la plénitude de leurs caractéristiques. Pour les microphones, je serais un peu plus prudent. Il y a certains types de microphones qui ne supportent, par contre, qui vont très mal supporter le vieillissement. Je pense aux microphones à ruban, où le ruban risque de se détendre dans le temps, et où là, on risque d'avoir des surprises extrêmement désagréables, en particulier quand on essaye de retrouver d'occasion des micros qui ont 10, 15, 20, ou voire plus. 15, 20 ans, ou voire plus.
Alors ces fameuses années 60, qu'est-ce qui vous passionne plus particulièrement à cette époque?
Alors moi, c'est l'enregistrement magnétique.
L'enregistrement magnétique.
Ah oui. Oui, parce que je devais avoir 13 ou 14 ans. Encore une fois, je suis jaloux. Notre voisin a acheté un Filson, qui était une marque française de magnétophone à l'époque, qui a rapidement disparu, avec lequel il enregistrait tout ce qui passait à la radio et il copiait ses disques. Alors il copiait ses disques pour monter ça sur des bandes quand il organisait des surprises parties
Ah
chez lui.
d'accord, oui.
Voilà. Et moi, le magnétophone, ça m'a plu tout de suite, et j'ai trépigné, puis mes parents, à l'époque, je ne travaillais pas, donc, bien entendu, j'étais encore à l'école, et mes parents ont fini par m'acheter un petit magnétophone lisse, laboratoire industriel du son, à Rueil, qui était comme il était, mais qui m'a permis déjà d'enregistrer. Il y avait surtout de très beaux concerts à la radio à l'époque, en modulation de fréquence. C'était en mono, bien sûr, et c'était à tube aussi. Je l'ai gardé, j'ai dû le garder 3-4 ans, et puis là, j'ai trouvé au puce une mécanique de magnétophone anglaise, une marque qui a disparu, Colaro, qui faisait aussi des tourne-disques à l'époque. Il y avait à l'époque Brenel, Colaro et Ferrographe, qu'on connaissait pratiquement dans le monde entier, comme fabricant anglais de magnétophones. Donc je suis tombé sur une mécanique toute nue. Alors elle avait quand même certains avantages, elle avait 3 vitesses, 9, 5, 19 et 38, ce qui était assez rare à l'époque. Et puis surtout, elle pouvait marcher dans les deux sens. Alors comme c'était une mécanique nue, il a fallu que je fasse toute l'électronique, puis donc je me suis fait une électronique à tube, ça a dû prendre un an ou deux ans, et mono. Mais j'avais un très beau son à l'époque. La mécanique était assez fiable, mais disons qu'elle n'était pas très précise. C'était les reproches que l'on faisait au magnétophone anglais de l'époque. Mais donc déjà, j'avais mis un doigt assez profondément dans l'enregistrement magnétique.
Et ces connaissances que vous aviez quand vous étiez finalement assez tout adolescent, jeune adolescent,
C'était du bricolage. J'achetais des revues.
Ah oui, d'accord.
J'achetais des revues. Il devait déjà y avoir quelque chose qui devait s'appeler le haut-parleur ou son ancêtre. Il y avait une revue. Oui, il y avait plein de revues pour les bricoleurs de radio, pas de télévision, il n'y en avait pas beaucoup, mais des bricoleurs de radio, des bricolages de haute fidélité. Il y avait la revue du son, où il y avait des schémas, des descriptions, les adresses où acheter les kits pour se monter soi-même. Il y avait beaucoup de fabricants français à l'époque de matériel comme ça. Ben après le Colaro, c'est beaucoup plus tard, j'ai acheté un petit magnétophone portable. Je suis tombé sur une occasion. On habitait derrière le théâtre de la Renaissance et il y avait un vendeur qui avait aussi une boutique Opus à l'époque, sur le boulevard, ça doit être le boulevard Saint-Martin, je pense. Et je suis tombé sur une occasion pas chère d'un petit magnétophone à pile. C'était un Ficord, je crois que c'était un SP2, et Ficord était une société anglaise, mais c'était pas eux qui fabriquaient, c'était fabriqué en Suisse par Stellavox. Je crois que c'était le tout début des magnétophones Stellavox de Georges Kellet, que j'ai rencontré par la suite en Suisse. Ça marchait il y avait une seule vitesse, ça marchait avec des toutes petites bobines de 10 cm, et je l'avais acheté avec un très très beau micro pour l'époque, un micro Beyer, ça doit être un M61 ou quelque chose comme ça. Ça ressemblait un peu au M69 qui est sorti après, en moins performant, mais disons que ça correspondait bien aux capacités du magnétophone. Bon, ce magnétophone, il avait deux énormes défauts. C'était la source d'énergie qui était des batteries argent zinc, comme dans l'aéronautique, mais au format petite boîte d'allumettes. Il y avait un seul endroit où on pouvait se les procurer en Europe et ça m'obligeait à aller à Neuchâtel pour aller les trouver. Elles avaient une durée de vie moyenne de 3 mois et elles coûtaient une petite fortune. Ça, c'était le premier point. Mais on pouvait quand même éventuellement l'alimenter par des piles à l'extérieur, parce que les batteries, c'était pas encore une chose très courante. Par contre, ce qui était beaucoup plus gênant, c'est que le moteur parasitait comme c'était pas possible. Donc, dès que l'UR4000 est sorti, je m'en suis payé un.
Et vous enregistriez quoi à cette époque-là ?
À cette époque-là, j'allais à l'auberge de jeunesse de Fontainebleau et j'enregistrais essentiellement des bruits de la nature, ça me plaisait beaucoup. J'avais à l'époque qu'est-ce que c'était comme casque ? Je me souviens plus du tout ce que c'était. Et j'avais ce micro Beyer, mais l'UR4000 était suffisamment sensible pour arriver à avoir de beaux enregistrements, surtout en 19 cm par seconde. On avait une très très belle qualité avec. Et après, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, je suis rentré chez Liebelin. Et j'ai eu la chance chez Liebelin de rentrer dans le département où ils étudiaient et développaient les magnétophones de studio, en particulier pour la maison de la radio.
Ah oui, d'accord.
Donc là, je suis passé directement dans la classe au-dessus, dans ce qui se faisait de plus beau à l'époque. C'était pratiquement l'équivalent des Studer de l'époque ou des Telefunken. C'était des Rolls, c'était des meubles de 100 kg, c'était des électroniques à tubes. Mais ce qui était merveilleux, c'était le soin et la qualité apportés à la fabrication de ces produits-là. En particulier, les machines étaient fabriquées avec des tolérances très étroite. Donc les contrôles en fabrication étaient très stricts, très poussés. Et moi, j'appréciais beaucoup le fait que quand on enregistrait, par exemple, une bande sur une machine et qu'on la repassait sur une autre, c'était pile la même vitesse et c'était exactement réglé de la même façon. L'azimut était impeccable, les hauteurs de piste étaient parfaites. Tout était fait à la main chez Elie Hebelin, les mécaniques, les moteurs et les têtes.
Et ces machines étaient spécifiquement construites pour... c'était pas l'ORTF à ce moment-là.
C'était encore la RTF.
Oui. C'était la RTF.
Ces machines ont été conçues sur cahier des charges de la RTF. D'accord, absolument. Ouais, ouais. Et donc, Tolana, Bourdereau et Elie Hebelin étaient en concurrence systématique sur tous les appels d'offres pour l'équipement de l'ensemble des studios du réseau national. Parce qu'il n'y avait pas que la maison de la radio qui possédait des studios d'enregistrement. Il y avait énormément d'agences régionales. Avec oui. Eux aussi équipés avec de beaux studios d'enregistrement. Donc les machines devaient déjà être interchangeables entre elles, d'une marque à l'autre, et non seulement interchangeables, c'est-à-dire au point de vue branchement, mais interchangeables au point de vue caractéristique. Ce qui fait que les clauses de ce cahier des charges étaient très difficiles à respecter à l'époque, et les produits qui sortaient donc de la chaîne de fabrication était pratiquement au meilleur niveau de ce que l'on savait faire en France en matière d'électronique de pointe et de mécanique de précision. On était pratiquement dans les mêmes eaux que des M5 ou des M10 Telefunken ou bien que des ou que les machines les premières machines de chez Studer, hein, les premières machines de studio.
Et les studios privés, parce que là c'est des studios.
Non, les studios privés. Le prix de ces machines était tel, ouais. C'était absolument délirant. Je pense que si on essaye de. Bon, je vais parler en francs parce que la conversion en euros n'est pas évidente. Je pense qu'un F100 de 1963 devait coûter. Donc c'était un F100 était mono. 1938. Ou 95-1938, devait coûter plus de 150 000 francs. Donc un studio d'enregistrement n'avait certainement pas les moyens, même des grands studios, ceux qui à l'époque ont commencé à enregistrer Les Chaussettes Noires, Johnny Hallyday, même ces maisons-là, même Barclay n'avait pas les moyens de se payer ce genre de machine. Il y avait des machines ferrographes anglaises, il y avait déjà des Ampex ou des Scully américains, il y avait des Telefunken qui suffisaient largement pour faire un 45 tours et qui étaient trois fois moins chers.
Est-ce que ce type de machine a permis d'avoir une notoriété au niveau de la RTF, au niveau du son ?
Ah, la RTF et ensuite l'ORTF avaient une réputation absolument phénoménale au niveau européen, puisqu'on oublie qu'il y avait déjà l'Eurovision et qu'il y avait la même chose pour le son, qu'il y avait donc de très nombreux échanges de programmes entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Autriche, entre la France et la Suisse, la France et la Belgique, la France et les Pays-Bas. L'Espagne et le Portugal étaient encore sous Franco et Salazar, donc on n'en parlait pas. Mais il y avait énormément d'échanges de programmes. Et je sais qu'à chaque fois que j'allais en Allemagne ou en Suisse, par exemple pour visiter les usines, pour visiter ou pour aller voir les usines Studer, à chaque fois on me félicitait pour la qualité des programmes, en particulier les enregistrements de concerts. Quand il y avait des échanges, les échanges se faisaient parfois en direct, parfois en différé et souvent sur bande. Et le son français était particulièrement apprécié.
Vous êtes resté combien de temps dans cette boîte, finalement pour...
Alors, chez Elie Hebelin, j'y suis resté de 62 à 64, j'y suis resté 2 ans. Et puis, avec des amis, on a fait le pari de vouloir traverser la Seine à Mantes au mois de juin, et j'ai attrapé une pleurésie. Ça s'appelle un pari stupide, donc il a fallu que je m'arrête 6 mois pour soigner ma pleurésie. Et quand je suis rentré, il ne m'avait pas gardé. Mais d'un autre côté, donc, il y avait déjà des bruits, dès 64, il y avait déjà des bruits qu'un groupe d'électronique, où j'ai jamais su s'il est français ou américain d'origine, parce qu'à l'époque, sa plus grosse activité était aux États-Unis, c'est l'entreprise Schlumberger. On savait qu'elle avait des vues sur Elie Hebelin, parce que depuis 1 ou 2 ans, on assistait à une concentration phénoménale de toute l'industrie électronique française professionnelle, entre 2 groupes qui émergeaient, c'était le groupe Thomson et le groupe Schlumberger. Alors Schlumberger a mis la main sur pratiquement toute l'instrumentation, les appareils de mesure, les premiers appareils de mesure avec des tubes Dixie pour, et non plus des appareils de mesure à aiguille comme les anciens Metrix, mais c'était avec un affichage numérique, avec ce qu'on appelait des tubes néons, des tubes Dixie. Donc tous les compteurs, tous les voltmètres, les Rochard, les alimentations Quentin, Elieu Belin et d'autres sociétés ensuite sont passés dans l'escarcelle de Schlumberger. Et Thomson, de son côté, il a mis la main, mais après, sur la CSF, qui avait, disons, des activités plus vers le domaine militaire et plus vers la radio et la télévision. Schlumberger, c'était plutôt la mesure et l'enregistrement. Et Thomson, c'était plus la diffusion. Et puis, il y avait un troisième groupe quand même, qui, lui, avait une échelle européenne, qui s'appelait Philips, qui avait ses propres activités à travers une société comme TRT, comme par exemple les faisceaux hertziens, justement, qui permettaient à la RTF et à l'ORTF ensuite de diffuser les programmes de radio et de télévision dans toute la France à travers une chaîne de faisceaux hertziens, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de satellite.
Et donc, ensuite, vous travaillez toujours dans l'enregistrement. Est-ce dans la création de machines, par la suite ?
Alors, chez Elieu Belin, c'était réellement de la conception de machines, c'était de l'étude. C'était des études extrêmement lourdes et complexes. En plus, moi, j'avais fait mes études d'électronique du temps du tube. Et puis, le transistor était arrivé entre-temps. Et il y avait d'abord eu le transistor au germanium, et puis ensuite il y a eu le transistor au silicium, et pour moi il a fallu que je me reconvertisse, parce que les façons de concevoir le matériel, de le concevoir, de le créer, de le calculer, étaient totalement différentes. C'était un état d'esprit différent, donc il a fallu opérer cette reconversion. Et puis ensuite, il y a eu quand même aussi en matière de magnétophone une grosse révolution qui s'est appelée le Nagra. Oui. Parce que quand le Nagra est arrivé et qu'on l'a ouvert pour la première fois, on n'a pas compris comment, sur un matériel portable de 7 ou 8 kilos, les Suisses avaient réussi à obtenir des performances, en particulier des performances de stabilité mécanique de défilement, supérieures à des machines de 100 kilos, comme ce qu'on fabriquait pour la RTF. On a été soufflé et on a mis un certain temps avant de comprendre comment cela marchait. Ça marchait parce que Kudelski, le patron de Nagra, avait découvert de son côté ce qu'on appelle un asservissement, tout simplement. Au lieu d'utiliser un moteur qui va suivre le secteur, qu'on appelait un moteur synchrone, eh bien, il utilisait un moteur à courant continu dont on obligeait la vitesse à suivre une loi. On régulait sa vitesse, ce qui était totalement différent. Jusque-là, pratiquement tous les magnétophones du commerce utilisaient le même type de moteur. Alors, soit en entraînement direct, c'était des Pabst avec des rotors en cloche, soit des moteurs synchrones avec, en général, à ce moment-là, des galets ou des courroies, un peu comme les tourne-disques. Et puis là, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec un moteur qui était en prise directe. C'était l'axe du moteur qui servait de cabestan et qui permettait d'entraîner la bande. Donc, c'était complètement une révolution. Les F-14 qu'on avait livrés à l'ORTF, qui étaient les magnétophones à lampe, les derniers magnétophones à lampe, il y avait un moteur de 25 kg, un moteur synchrone de 25 kg, et une transmission par une courroie en millard. C'était la première courroie en millard que j'avais vue, avec un dispositif de tendeur pour tendre la courroie. Et au bout, il y avait un volant sur l'axe de cabestan de 8 kg, pour stabiliser la vitesse et faire qu'il n'y ait pas de pleurage et de scintillement. Et on se trouvait avec le Nagra, avec un engin qui pesait moins d'un kilo et qui était meilleur en performance absolue. Donc ça nous a donné des idées déjà chez Elieu Belin. Et donc les machines transistorisées qui sont sorties ensuite chez Elieu Belin, puis ensuite chez Schlumberger et chez Nertec, ont utilisé le principe développé par Nagra sur du matériel portable, c'est-à-dire qu'on utilisait un moteur à courant continu qui était tout bêtement une gégène, une génératrice qu'on utilisait à l'envers comme moteur, sur laquelle on avait mis un volant avec une roue phonique, mais optique, hein, pas magnétique comme sur le Nagra ou comme sur le Revox. De son côté, Revox aussi avait développé sur ses magnétophones, après le G36, le A77, laisse tomber le moteur Pabst, ou le moteur synchrone à rotor en cloche, et Studer a développé par la suite de très très beaux systèmes de moteurs asynchrones. Ils sont alimentés en courant alternatif et non pas en courant continu, mais ils sont asservis aussi par une roue phonique. Le plus difficile, ça a été de mettre au point l'asservissement de vitesse sur ces machines. Ça a dû durer une bonne année, parce que personne n'avait de compétences en matière d'asservissement électronique chez les Belin, et moi encore moins que les autres. qui sortait à peine de l'école.
Ensuite, où allez-vous?
Ensuite, où je vais? Donc, on va se retrouver pratiquement en 65. Ah, je change complètement de secteur d'activité. En 65, donc, déjà, je suis majeur, j'habite plus chez mes parents. Et je suis rentré dans une société qui n'avait réellement rien à voir avec, avec de l'audio, qui s'appelait APC, Arca après mon contrôle. Alors, Arca, c'était des initiales. Contrôle, on comprend ce que ça veut dire. Mais Prémon, c'était Monsieur Aymon, qui était un monsieur qui, avant la guerre, avait fabriqué des projecteurs de cinéma. Donc, qui était spécialisé, entre autres, dans la mécanique de précision. Bon, son entreprise avait fait plus ou moins faillite pendant ou après dans l'immédiat après-guerre. Et par contre, ceux qu'il avait repris avaient essentiellement repris une entreprise de mécanique de précision. Et il fabriquait donc les organes de commande et les régulateurs pour tout ce qui est régulation de température, de pression, d'humidité, d'hygrométrie, de vide, d'acidité, de comment dire, tout ce que l'on veut, pour les industries alimentaires, pour l'industrie chimique et surtout pour l'industrie pétrolière. Par exemple, ils fabriquaient des vannes et ils fabriquaient les régulateurs pour piloter ces vannes. Mais ce n'était pas électronique, c'était pneumatique. Et c'était pneumatique depuis plus de 50 ans, depuis le tout début du XXe siècle, depuis qu'il y avait des raffineries de pétrole pour faire de l'essence pour les voitures, pour les moteurs à explosion. Et à partir des années 60, il y a commencé à y avoir progressivement un couplage de l'électronique et du pneumatique. Donc on avait, un petit peu comme une DS quand elle est sortie, des vannes et des j'appelle ça des calculateurs parce que c'était réellement des calculateurs, comment dirais-je, électro-pneumatiques. Mais pas électro pour électricité, électro pour électronique. Et donc APC fabriquait les capteurs, les calculateurs et les vannes. Il y a une catastrophe qui nous a énormément marqué parce qu'il y a eu un très très gros accident à côté de Pierre-Bénite, au sud de Lyon, dans ce qu'on appelle la vallée de la chimie, à la raffinerie Elf de Fézin, où il y a réellement eu une catastrophe parce qu'il y a eu une équipe technique qui devait faire un prélèvement sur une vanne, un prélèvement de gaz, et ils n'ont pas réussi à refermer la vanne à temps. Et la vanne s'est bloquée parce que le gaz sous pression, quand il fuit, ben la température s'abaisse et on obtient des températures très 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 froides, moins 80, moins 100 degrés. La vanne n'était pas du tout prévue pour fonctionner à ces températures-là. La vanne s'est bloquée, le gaz a continué à sortir. Et puis on ne sait pas, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu d'un véhicule qui était sur l'autoroute, qui était à proximité immédiate de la raffinerie? Il y a dû y avoir une étincelle et tout a explosé et ça a été une catastrophe épouvantable. Et la vanne sortait de chez nous. Inutile de dire que l'atmosphère dans l'usine, c'était assez noir. Alors il était difficile de mettre en cause la vanne par elle-même parce que dans le cahier des charges de ces matériels-là, on n'avait jamais demandé à ce qu'elle tienne à des températures pareilles. Donc la seule chose qu'il a été possible de faire, ça a été de faire en sorte qu'il y ait des automatismes qui interdisent que le prélèvement dure plus d'un certain temps. C'était la seule possibilité pour qu'il n'y ait pas finalement formation de glace qui bloque tous les mécanismes. Alors chez APC... j'ai beaucoup appris les choses qui m'avaient manqué d'ailleurs chez Liebelin, c'est-à-dire que j'ai appris ce que c'était qu'un asservissement. Donc une boucle d'asservissement et ce qu'on appelle la rétroaction. Et c'est bien dommage que j'ai pas eu ça comme acquis, comme connaissance. Chez Liebelin, je pense qu'on aurait gagné du temps et de l'argent pour le développement des machines qui sont sorties après les F-14. C'est dommage.
Et vous êtes resté combien de temps?
Je suis resté deux ans chez Arca après mon contrôle.
Vous faites tous les deux ans finalement, vous changez.
Bon, à cette époque-là, on pouvait même changer plus souvent, parce qu'à partir de là, ça a été un petit peu la Java. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, parce que je crois qu'Arca après mon contrôle a été repris par Schlumberger.
Oui.
Voilà. Alors ensuite, j'ai dû faire des séjours très très brefs. Je suis rentré chez SGS Fairchild, qui était donc une association entre la grande maison américaine Fairchild, qui était donc un fabricant de semi-conducteurs, de transistors, de circuits, des tout premiers circuits intégrés, et SGS, qui était une usine italienne où les transistors étaient fabriqués en Europe. Et c'est chez SGS, en 67, que j'ai découvert les tout premiers circuits intégrés, en analogique. Hein. Il existait déjà des circuits intégrés pour des fonctions logiques. Je ne sais pas si c'était de la TTL ou quelque chose comme ça, mais en analogique, il n'y avait rien du tout. Et très rapidement, on a eu des engins qui s'appelaient des amplificateurs opérationnels. Et entre autres, j'ai pensé après qu'on aurait été très content d'avoir ces amplificateurs opérationnels pour les intégrer dans les process contrôle d'Arcapremont, d'APC. Mais on ne revient pas en arrière. Et ces premiers amplis opérationnels, on m'avait laissé miroiter sur le papier que ça pouvait présenter un intérêt dans le domaine de l'audio. Et là, d'une façon fortuite, je suis retombé sur le magnétophone. Parce qu'il y a une société qui fabriquait des laboratoires de langues qui, à l'époque, étaient faits à partir de magnétophones, pour apprendre les langues étrangères, qui, avait confié un contrat d'études pour transistoriser un laboratoire de langue qu'ils avaient déjà en fabrication, mais qui était à tube. Donc on s'est dit, on ne va pas s'embêter à transistoriser, on va carrément passer à l'étape supérieure, et on va carrément intégrer tout ça. Alors, la fonction y était, mais pas les performances.
Oui, c'est ce que je voulais demander. Quels étaient...
Le problème, c'est qu'on avait bien la bande passante, mais on n'avait pas la distorsion, on n'avait pas le bruit, et finalement, on savait faire nettement mieux avec des transistors discrets. Et il a fallu attendre quand même un bon bout de temps, au moins 2 ou 3 ans, pour qu'on commence à trouver des circuits intégrés qui soient utilisables proprement en audio et qui donnent des résultats équivalents, voire supérieurs à ce que l'on savait faire avec du composant discret. Mais ce qui était intéressant, c'était que cette société, c'était Sedamel, utilisait des platines Revox, et c'était donc des châssis de G36, des châssis stéréo. Donc c'était pratiquement la Rolls-Royce du laboratoire de langue. Donc pour moi, ça a été à la fois un retour dans le magnétophone et un pied mis dans l'activité laboratoire de langue. Je suis resté très peu de temps chez SGS Fairchild parce que ce contrat d'études avec Samuel finalement n'a pas débouché parce que les performances n'étaient pas au rendez-vous. J'ai continué dans le laboratoire de langue à Rueil, dans l'entreprise qui m'avait fabriqué mon premier magnétophone que j'avais eu quand j'étais tout jeune homme, au laboratoire industriel du son. Ça s'appelait Audio Marchand à l'époque. C'était pas très loin des lieux Belin, c'était dans la même avenue, avenue Napoléon Bonaparte, mais un peu avant, à partir de ce qui est maintenant la Défense. Et ils fabriquaient des laboratoires de langue qui utilisaient donc l'électronique qui était développée à part, mais la partie mécanique, c'était du laboratoire industriel du son. Le patron était quelqu'un, je crois, qui est connu, mais maintenant, son père ou son grand-père s'appelait Kerr-Xavier Roussel. Alors, je ne me souviens plus si c'était un peintre ou un écrivain, breton bien entendu, Kerr-Xavier, mais le monsieur était un vrai breton au point de vue tempérament. Comme j'ai bon tempérament de mon côté, ça a très très vite craqué et je suis parti. Mais j'avais remis le pied dans les laboratoires de langue et j'avais à nouveau revu des personnes de l'éducation nationale qui étaient, entre autres, chargées des problèmes techniques au ministère de l'éducation nationale. Donc là, j'ai dû rester quelques mois. J'ai dû rester quelques mois chez SGS Fairchild et puis quelques mois chez Audio Marchand. Et là, j'ai changé d'activité complètement.
Oui.
Je suis rentré dans une société à Gentilly qui s'appelait Safi Mosrat, qui était une filiale de la CSF.
Oui, CSF.
Alors là, on n'est plus du tout dans l'audio. Ces gens-là faisaient du matériel de mesure pour le CEA, pour mesurer ils faisaient des dosimètres pour mesurer les doses de radiation reçues par les personnels qui travaillaient soit dans les centrales nucléaires, soit sur les champs d'expérimentation, ou dans toute l'industrie nucléaire. Tout ce qui était le traitement des minerais d'uranium. Ça, c'était leur première activité. Leur deuxième activité, c'était la conversion d'énergie et les alimentations régulées. Alors là, j'ai enfin pu mettre en application tout ce que j'avais appris chez APC en matière de boucles de régulation pour faire des alimentations régulées. Et par contre, là-bas, j'ai appris ce que c'était que la conversion d'énergie, et en particulier une conversion d'énergie non parasitante. Donc ça a duré Ça a duré encore 2 ans, de 67 à 69.
Alors justement, pendant cette période-là, vous apprenez ou vous faites la découverte d'une nouvelle technologie qui est le laser.
Alors, c'est un département qui était presque secret. Alors, il faut dire que c'était donc une filiale de CSF, mais donc avec de grosses accointances avec le CEA. Ce qui fait qu'à l'intérieur d'un même bâtiment, c'était très sécurisé entre les différentes unités d'études et de recherche. Mais on savait qu'il y avait à côté de nous un laboratoire qui travaillait sur un appareil qui s'appelait le distamètre. Alors on ne savait pas ce que c'était que le distamètre, mais vu son nom, on s'est dit que ça doit servir à mesurer des distances. Et bon, il y a quand même eu des fuites, puisqu'on finissait quand même par être à table ensemble au restaurant d'entreprise, ou dans les restaurants d'à côté. Et on a découvert que cet appareil de mesure de distance fonctionnait en utilisant un procédé tout nouveau qui s'appelait le laser. On ne savait pas ce que c'était. On nous disait de mettre des lunettes noires quand on rentrait dans le labo. Il y avait des espèces de sigles sur les portes, c'était un rond avec plein de rayons, un peu comme un soleil. On nous disait que c'était très dangereux de ne jamais le regarder directement, on ne savait pas ce que c'était. Mais c'était des lasers. Donc ce laboratoire, pour le compte du CEA, a fabriqué un appareil à mesurer les distances et les vitesses. Alors on ne savait pas à l'époque pour quel type d'application c'était. Bon, y en a plein sur les autoroutes maintenant et sur les routes nationales. Et c'est les automobilistes qui trinquent. C'est devenu le radar laser.
Ce que je voulais savoir, c'est à partir du moment où on a travaillé sur le laser en France, où en étaient les Américains? Ils étaient beaucoup plus loin?
Les Américains avaient pratiquement 15 ou 20 ans d'avance sur nous en matière de laser, ouais. Parce qu'eux avaient découvert le laser. Enfin, je me souviens plus si c'est Honeywell ou si c'est Honeywell ou Fairchild, je ne sais plus quel laboratoire, ou peut-être les Bell Laboratories, à la fin des années 50. Le brevet, la découverte du laser, je ne me souviens plus du nom de l'inventeur, mais il a eu un prix Nobel à la fin des années 50. Donc les Américains possédaient une avance colossale là-dessus. En France, on a ensuite rattrapé copieusement le retard. Et on n'a plus rien à leur envier de ce côté-là.
Est-ce qu'on dépensait beaucoup d'argent pour la recherche à ce moment-là, pour ce type de recherche? Est-ce qu'on en dépensait énormément?
À partir du moment où il y avait potentiellement des applications militaires, on était sous De Gaulle, c'était l'époque du développement de la force de frappe, du renouvellement complet des matériels de l'armée française, aussi bien armée de l'air, armée de terre que marine et sous-marin. Et donc à partir du moment où il pouvait y avoir une application militaire, on disposait de budgets quasi illimités. Les coûts des programmes de développement feraient défaillir n'importe quel chef d'entreprise aujourd'hui.
Et j'imagine que ça devait être multiplié par 100 aux États-Unis, si ce n'est pas par 1000 ou 10 000.
Alors, aux États-Unis, on n'a pas la moindre idée de ce que ça a pu coûter. On en parlait tout à l'heure avant le début de cet entretien. Le développement du programme Apollo pour la conquête de la Lune par les Américains, avec le développement de la fusée Saturne, a représenté plusieurs années du budget de la France. C'est totalement insensé. Tout ça pour faire arriver une douzaine d'hommes sur la Lune en l'espace de 5 ans.
Ah, prestige quand tu nous tiens.
Donc, je suis resté jusqu'en 60... Ah, non, j'ai oublié quelque chose. Je suis rentré en avril 68 à la Safi Mosrat. Un mois après, il y avait la grève.
Oui, en mai.
En mai, voilà. Joyeux anniversaire, ça va faire 40 ans.
Ça fait 40 ans, oui, tout à fait. Oui.
Et donc, je suis resté 68-69 à la Safi Mosrat. Et en 69, comme c'était une filiale de la CSF, Thomson, qui était sur le point, et qui était en cours d'ailleurs, de reprise de la CSF, a présenté à l'ensemble des personnels de toutes les filiales de la CSF le contrat Thomson. Donc, le contrat Thomson, j'appellerais ça un contrat léonin, il n'y avait plus aucun avantage à continuer à travailler dans le groupe Thomson par rapport aux avantages de toutes sortes, aux primes, au 13e mois, à la participation qu'on pouvait avoir à la CSF. Donc j'ai dit bye bye.
D'accord.
Et je suis rentré chez moi. Mais je ne suis pas resté longtemps chez moi. Je ne suis pas resté longtemps chez moi parce que j'ai eu un coup de téléphone peu de temps, ça devait être en avril ou mai 69. J'ai reçu un coup de téléphone chez moi d'un monsieur très important du ministère de l'Éducation nationale qui était le directeur des moyens techniques ou quelque chose comme ça, qui était chargé de mission à l'éducation nationale et qui en particulier s'occupait des laboratoires de langue. Et c'était un monsieur que j'avais donc déjà rencontré chez Sedamel pendant que j'étais chez SGS Fairchild et que j'avais rencontré ensuite chez Audiomarchand. Donc ce monsieur savait que je connaissais le magnétophone. On avait vaguement dû discuter 10 minutes ensemble au restaurant quand il était passé dans l'une ou l'autre de ces entreprises. Et il se souvenait, entre autres, que j'avais travaillé sur des magnétophones professionnels chez Elie Belin plusieurs années auparavant. Donc pour lui, j'étais un spécialiste du magnétophone. Et il avait un ami, je cite pas les noms, je cite pas les noms, parce que cette personne est, je pense, toujours vivante. Je lui dois beaucoup, je vais quand même le dire.
Ah, quand même. Oui.
Je ne sais pas si c'est un compatriote de Philippe Labrou, mais ce monsieur s'appelait Rubenac, il était de Périgueux, et un de ses amis s'appelait Monsieur Pardaillan, comme le mousquetaire, et aussi de Périgueux ou de la même région. Et donc ce monsieur m'appelle un soir à la maison en me demandant, Monsieur Stamant, bon, je sais que vous savez ce que c'est qu'un magnétophone. Je sais que vous savez ce que c'est qu'un laboratoire de langue, puisque vous en avez vu à la Cédamel et que vous en avez vu chez Audiomarchand. Est-ce que vous seriez intéressé à prendre la direction technique d'un département laboratoire de langue, dont un de mes amis va prendre la direction commerciale, et département qui serait créé dans une entreprise très connue de l'électronique grand public française? Je lui ai dit, écoutez, pourquoi pas? De toute façon, je suis sans travail. Ma mine dit, ben voilà, c'est Grandin, la Société française de radio et de télévision à Montreuil, qui envisage de créer un département laboratoire de langue. Est-ce que vous seriez partant? Ben, moi, j'ai répondu, pourquoi pas, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, il faut que vous fassiez vos preuves. Ben oui, mais faire mes preuves, comment? Ben, écoutez, moi, je peux vous procurer du matériel et je vous demande de me sortir le plus vite possible, parce que j'ai besoin de les présenter pour agrément. Une maquette ou un prototype de deux choses. Une cabine élève, c'est-à-dire le magnétophone de l'élève, qui a son micro-casque, qui écoute une piste enregistrée, qui répète ce programme, qui revient en arrière, qui corrige, et un pupitre maître, où le maître vient éventuellement prendre les commandes du magnétophone de l'élève, pour revenir en arrière, écouter ce qu'il a enregistré, lui transmettre des commentaires depuis un micro d'ordre qui est placé donc sur le pupitre du maître, et parler en interphonie en quelque sorte avec l'élève, mais uniquement avec cet élève-là, sans perturber le travail des autres. Je dis, bah, écoutez, je vais réfléchir, mais moi j'ai besoin de matériel pour ça. Pas de problème. 8 jours après, j'ai reçu, pour moi c'était une merveille, un magnétophone Revox A77 en 9,5-19, deux pistes stéréo. Pour moi déjà, avoir ça dans la main, c'était un rêve auquel je ne pensais même pas, parce que cet engin-là, à cette époque, ça devait être probablement l'équivalent d'un trimestre complet de salaire d'ingénieur. Oui, j'ai oublié de dire qu'entre-temps, donc, j'avais suivi le cours des arts et métiers pendant 2 ou 3 ans et j'avais fini par obtenir mon diplôme d'ingénieur. Donc un A77, c'était pratiquement un trimestre de salaire d'un ingénieur de l'époque. On ne se rend pas compte de ce que c'était que la haute fidélité. Ça, et il me dit, bah écoutez, pour tous les composants électroniques, vous vous adressez à tel et tel magasin, vous avez un compte ouvert. Ah bon? J'ai dit oui, mais il faudra faire de la mécanique. Pas de problème, vous allez voir monsieur un tel, il vous fera toutes vos pièces.
C'est rêvé, ça, comme condition de
Donc
travail.
c'est une situation complètement délirante. L'avantage que j'avais, c'est que je vis seul dans un studio. Et donc, pratiquement en 3 mois, c'est-à-dire que j'ai dû lui présenter le prototype juste avant de partir en vacances, fin août. En 3 mois, j'avais pu faire le prototype donc d'une cabine élève, c'est-à-dire modifier complètement un Revox, pour pouvoir rentrer un micro-casque dessus, pour pouvoir avoir des télécommandes, pour avoir un bouton, par exemple, on appuie sur le bouton, la machine repartait en marche arrière, mais pas trop vite. Quand on relâchait le bouton, la machine s'arrêtait et repassait en lecture. Autrement dit, l'élève écoutait la piste du professeur, en même temps il s'enregistrait sur l'autre piste. Quand il avait fini de répéter, il appuyait sur le bouton, il revenait en arrière, donc il s'écoutait, mais en marche arrière, un peu comme font les DJ quand ils font tourner les disques à l'envers. Et puis quand il était arrivé à l'endroit qui l'intéressait, il relâchait le bouton et il réécoutait à la fois le professeur et sa propre voix.
Alors, ce que je comprends pas, c'est...
Mais on l'avait choisi une machine de course,
oui,
une véritable Rolls-Royce.
Voilà.
Alors, elle avait été choisie parce que, a priori, les magnétophones Revox bénéficiaient d'une cote phénoménale, d'une réputation en matière de fiabilité. Or, un laboratoire de langue, c'est une machine qui souffre énormément. Parce que justement, il y a sans arrêt, arrêt, marche, marche arrière, marche avant, défilement, et ça recommence sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Comme en plus un laboratoire de langue, c'était très cher, et il y avait déjà des sociétés privées qui faisaient apprendre les langues, un peu comme Berlitz,
tout à fait.
Qui était équipé de laboratoire de langue, et chez Berlitz, le laboratoire de langue, il tournait 18 à 20 heures par jour. Donc un engin comme ce que j'avais vu chez Audiomarchand à partir de mécanique lisse, en un an, la mécanique était fichue. Donc il n'y avait que des machines hyper robuste, à trois moteurs et trois têtes, parce qu'il fallait pouvoir avoir ce qu'on appelle le monitoring. Il n'y a que ces machines-là qui permettaient d'avoir une fiabilité et une robustesse.
Je veux dire, monter un programme audiovisuel pareil au niveau d'éducation nationale, ce sont des sommes astronomiques.
Mais ça a été des sommes astronomiques.
Oui.
Par exemple, je ne sais plus ce que c'est, mais c'était l'école normale supérieure de Sèvres. C'est un très très beau bâtiment, je crois que c'est du 18e siècle. C'est superbe, je crois que c'est derrière le marché ou la mairie, en face de la mairie, derrière le marché. Ça a été un des premiers établissements qu'on a équipé en laboratoire de langue. Mais un laboratoire de langue en 70, on a commencé très très vite à fabriquer après le prototype. Le prototype a obtenu l'agrément dans les 3 mois. C'est-à-dire, dès le mois d'octobre, on avait l'agrément. C'était phénoménal, comme s'il n'y avait pas eu de vacances. Donc, la fabrication a commencé immédiatement, parce qu'on avait signé un accord. Donc le département en grandin enseignement avait été créé. On avait signé des accords avec l'importateur et le distributeur de Revox en France. C'était Revox Weyer. C'était Messieurs Riesser et Schaeffer. On avait un prix canon sur le Revox à l'époque. Pour cet usage-là, parce que c'était des quantités de plusieurs centaines de magnétophones. Mmh. Un laboratoire de langue, c'était 16, 18, 20, 24 cabines. Donc 100 machines, c'était 4 laboratoires, 5 laboratoires. Donc on arrivait à faire tomber le prix public était supérieur à 10 000 francs.
Mmh.
Je me souviens du prix auquel moi j'ai acheté mon Revox à l'époque, en 70 ou 71. Chez ces deux messieurs, j'ai dû le payer 1200 francs à l'époque. Mais 1200 francs en 71, ça faisait beaucoup quand même.
Mmh. J'ai des souvenirs comme ça. J'ai fait mes études à La Rochelle. Et il y avait un collège à La Rochelle qui était le collège Missy, qui était spécifique à La Rochelle et qui était justement nanti de ces laboratoires de langue. Et quand on s'est réunis à partir de la seconde avec les élèves venant de Missy, on s'était aperçu qu'ils avaient un niveau de langue qui était 100 fois supérieur au nôtre. Nous, on était très littéraires avec le texte devant les yeux. Eux parlaient pratiquement allemand ou anglais couramment.
Mais je ne me souviens plus comment s'appelait cette méthode. À l'époque, c'était sur des 45 tours. Avec des disques.
Mm-hmm.
Je ne me souviens plus, ça porte un nom, je crois que ça existe encore, mais maintenant c'est en CD ou en DVD.
C'est en CD ou DVD, oui.
Voilà. Mais c'était extrêmement efficace pour l'apprentissage des langues. Donc, après l'agrément par le ministère de l'Éducation nationale, les commandes sont arrivées tout de suite. Je crois que la première installation qu'on a faite, c'était le Centre international d'études pédagogiques à Sèvres, justement, le CIEP, qui avait succédé à l'École normale supérieure de Sèvres. Ensuite, on a équipé... Au moins une centaine d'établissements, de grandes écoles et de facultés en France... En l'espace de 5 ans. Et il y en a encore qui tournent. Par exemple, on a équipé Subdeco à Lumini, à Marseille. Et j'avais un collègue qui travaillait avec moi au laboratoire de Grandin Enseignement, qui venait des pays chauds, qui avait vécu en Afrique, qui avait des difficultés à vivre dans le nord glacial, et qui a été débauché par la direction de Subdeco de Marseille-Lumini. Et qui est parti à Marseille-Lumini, qui s'est installé à Cassis, et qui a entretenu ce laboratoire de langue jusqu'à une date récente. Il a pratiquement tourné 30 ans. Il n'arrivait plus à trouver les bandes magnétiques, ils ont arrêté. Bon, alors, le problème qu'il y a eu quand même, c'est que la SFRT, on ne connaissait pas beaucoup, mais Grandin, c'est une marque qui existe toujours, je crois que c'est l'arrière-petit-fils qui a repris. L'arrière-petit-fils, donc ça doit être le fils ou le petit-fils de... du fils d'un des frères Grandin, c'était un chanteur qui s'appelait Adamo.
Ah oui.
qui faisait partie de la famille Grandin. Donc il a récupéré la marque Grandin. Bon, enfin, toujours est-il que Grandin était surtout connu pour deux activités. Il y avait une activité autoradio qui s'appelait Radiomatique, où c'était remarquable ce qui était fabriqué, point de vue conception. Et puis l'autre activité, c'était des téléviseurs. Et puis Grandin n'a pas compris que, ben mon Dieu, le temps de la couleur était arrivé. Et ils ont commencé à entamer leur programme d'études et de fabrication de téléviseurs couleur beaucoup trop tard. Ils étaient mal placés, ils ont fait faillite. Donc la faillite a eu lieu, en mai 75. Et le département Grandin Enseignement a été repris donc à ce moment-là par une société qui était spécialisée dans l'audiovisuel et qui s'appelait Datel. Donc Datel a continué un petit peu les laboratoires de langue, mais disons qu'il n'y avait plus de développement à faire, et a tenté de se diversifier dans la haute fidélité un peu ésotérique. Et je me souviens qu'en 76, on a décroché un marché absolument mirobolant. À l'époque, il y avait un monsieur, j'ai jamais su de quelle nationalité il était. Est-ce que c'était un syro-libanais ou un libano-syro-arabo-séoudite, qui s'appelait Akram Ogé, qui était un milliardaire, qui était, d'après ce que j'ai cru comprendre, la personne qui tenait les cordons de la bourse du roi d'Arabie Saoudite. Donc c'était une grosse bourse. Et qui avait racheté à l'Isle-Adam l'ancien domaine de la famille de Breuil, dont un des membres avait été retrouvé suicidé quelques années auparavant de quelques balles de revolver de gros calibre tirées à bout portant dans le dos. Mm-mm. Drôle de façon de se suicider. Bref, c'est un aparté. Et ce monsieur, donc, qui disposait de moyens quasiment illimités, avait entrepris au domaine des Forgets à l'Isle-Adam un chantier d'aménagement absolument délirant. Délirant dans ce sens que, par exemple, entre le château et la piscine, c'était une piscine, elle faisait au moins 30 mètres, peut-être 50, elle possédait une couverture télescopique. Donc on pouvait y nager en été ou en hiver. Mm-hmm. Et la couverture télescopique, elle n'était pas opaque, bien entendu, on pouvait voir à l'extérieur. Mais ce qui était encore plus beau, c'est qu'il y avait donc un tunnel souterrain entre le château qui était entièrement sonorisé et la piscine. L'ensemble du tunnel était sonorisé à partir d'une centrale de sonorisation qui était située donc au-dessus. Mm-hmm. Mais la piscine était sonorisée, et la piscine était sonorisée dans l'air et dans l'eau. Et c'était en quadriphonie. Et le niveau était égalisé pour avoir la même impression sonore quand on était sur le bord de la piscine que quand on plongeait la tête dans l'eau ou qu'on nageait en sous-marin. C'est la première fois que j'utilisais des haut-parleurs spéciaux de chez Cabas qui avaient été développés pour les hydrophones de la Marine nationale. Mm-hmm. Donc c'était une installation absolument délirante. Il y avait, entre autres, au niveau du sous-sol, il y avait plusieurs nightclubs. Il y avait plusieurs petits coins discrets, il y avait tout ça était sonorisé. Il y avait une salle où il y avait un des premiers projecteurs vidéo que j'ai vu pour pouvoir projeter des cassettes vidéo sur écran, avec son stéréo. J'avais fait faire par Ellipson des enceintes spéciales pour pouvoir les intégrer dans les murs, dans des niches qu'on avait fait creuser dans les murs, et de façon à ce qu'elles soient invisibles. Parce que Madame Ogé était extrêmement exigeante en matière de qualité de décoration. Je me souviens, par exemple, qu'il y avait des vasques. Alors, est-ce que c'était de l'argent vermeil? Est-ce que c'était de l'or massif? Il y avait dans les cabinets de toilette des petites vasques pour se laver les mains. Je crois que c'est la Société juive de l'épine qui les avait fait fabriquer. Je pense qu'elles ont dû être changées au moins une demi-douzaine de fois, parce que l'aspect martelé du vermeil ou de l'or ne plaisait pas à madame.
D'accord. Bon, ouais.
Ça donne une idée. L'argent coulait à flot. Dans un seul sens, parce que ce monsieur Ogé, lui, était un sérieux requin. Je pense que s'il était devenu l'homme de confiance du roi d'Arabie, c'est parce que c'était probablement quelqu'un qui était très doué en affaires. Il avait l'habitude de jamais payer, en particulier sur le chantier des Forgets. Il n'a pas payé les entreprises, il n'a pas payé les factures des entreprises qui avaient fait les travaux. Comme c'était des travaux pharaoniques, ben les entreprises ont eu des problèmes. Pratiquement, elles ont fait faillite et il les a rachetées pour une bouchée de pain. À l'époque, il faut quand même se souvenir que je crois que ça s'appelait TAG Porsche Eyer. Le groupe oui. TAG, c'était Technique d'avant-garde. Mm-hmm. C'était Monsieur Akram Ogé. Il avait racheté Porsche et Eyer. Voilà.
C'est énorme.
C'était délirant.
Bien, nous allons nous arrêter quelques minutes et revenir pour une deuxième partie.
Merci.
Autre radio, autre culture.